9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé dans un instant. Karima Shadibaou sera avec nous. Nous allons parler aujourd'hui de la phobie scolaire ou du refus scolaire anxieux. Un phénomène qui se développe de manière inquiétante et un trouble qui est à prendre très au sérieux par le parent. Nous avons au téléphone François Cuel. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
De la phobie scolaire de votre fille Louise, vous avez fait un livre qui s'appelle « T'es vraiment nul et vieux » chez HarperCollins, « Lettre à ma fille qui ne va plus à l'école ». Alors c'est sympa comme titre de livre, hein.
Oui, vous trouvez? Je sais pas, t'es vraiment nul et vieux, c'est un peu décalé, mais c'est, j'en parle dans le bouquin, mais elle m'a jamais dit ça, hein.
Ah oui,
mais je pense qu'elle l'a beaucoup pensé, éventuellement, comme tous les ados, mais elle me l'a jamais dit. Donc, mais... le titre que moi je retiens, c'est plutôt Lettre à ma fille qui ne va plus à l'école, mais qui est peut-être moins sexy.
Oui, mais même si vous avez eu votre fille sur le tard, quand même.
Ah ben, vous êtes dur, mais c'est vrai, j'ai eu...
Non, mais attendez, faut être clair.
C'est la vérité, c'est la vérité. Vous voulez dire que nul peut-être pas, mais vieux sans doute, oui.
Ben, c'est peut-être ça. Comment est-ce que votre fille a réagi quand elle a su que vous écriviez un livre sur son histoire?
Elle a réagi très bien, dans la mesure où à l'origine, je voulais l'écrire avec elle. Et que c'était, parce que le problème des enfants phobiques, c'est qu'ils ne disent rien. C'est-à-dire que vous leur demandez, mais pourquoi? Dis-moi la nature de ton angoisse, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'école? Et il n'y a rien qui sort, rien. Et ça tous les pédopsies le disent. Donc moi, je me suis dit, tiens, on va écrire un livre à quatre. Donc, elle va petit à petit, non pas dire des choses, mais écrire des choses. Mais alors, ça a été un refus absolu, et particulièrement quand je lui ai dit, ce sera peut-être pour toi une manière d'approcher ton problème. Là, ça a été fini. Donc, je l'ai écrit tout seul, puisque j'avais pas trop de choix. J'ai écrit mon histoire de ma fille, en fait. La seule chose que je me suis astreinte à faire, c'est évidemment à lui faire lire le manuscrit, et à m'engager à effectuer tous les changements qu'elle voudrait. Elle n'a demandé, en fait, aucun changement de fond. C'est-à-dire qu'elle m'a laissé dire des choses que elle n'aurait pas voulu dire. C'est ça qui est très paradoxal. Et par ailleurs, elle est arrivée avec le manuscrit. Je le raconte dans le dernier chapitre, en s'asseyant devant moi et en me disant, il y a beaucoup d'erreurs factuelles, et elle a corrigé, en fait, des détails, des noms de gens, des dates qui n'étaient pas les bonnes, etc., etc. Donc, voilà pourquoi ce livre a été écrit à l'origine, hein. C'était pour la faire parler, si j'ose dire.
Alors, François Cuel, votre fille, Louise, ne s'est pas arrêtée d'aller à l'école comme ça du jour au lendemain. Ça a commencé par du harcèlement scolaire, et un jour, comme ça, elle revient à la maison et elle exprime qu'elle a été victime de harcèlement scolaire. Comment est-ce qu'elle vous l'a dit, ça?
En fait, elle dit à sa mère, parce qu'elle habite largement avec sa mère à Paris. Moi, je suis basé dans le sud-ouest. Actuellement, je suis à Paris, mais normalement, je suis dans le sud-ouest.
À Agen.
Elle est revenue... Absolument. Elle est revenue chez... Enfin, à côté. Elle est revenue chez sa mère et elle a dit « Je sais ce que j'ai ». Alors sa mère a dit « Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» On me harcèle. Ah bon ? Pourquoi on te harcèle ? Parce qu'il y a quelqu'un qui était venu, un intervenant extérieur, qui était passé dans la classe et qui avait expliqué c'était que le harcèlement, qui avait mis en garde les enfants contre le harcèlement comme bourreau, si je peux dire, ou comme victime, peu importe. Et elle avait absolument reconnu ce qui lui arrivait depuis un petit moment.
Et en fait voilà. elle ne s'était pas dit harcelée parce qu'elle ne savait pas ce que c'était que le harcèlement. Et non, à partir du moment où on lui a expliqué, ben, elle a compris que c'est ce qu'elle vivait, en fait.
Ben, elle a compris que quand on la taquinait sans arrêt sur, en l'occurrence, un point physique, par exemple, ou quoi que ce soit d'autre, si on lui disait sans cesse qu'elle avait les dents... elle avait 11 ans, donc comme beaucoup d'enfants de 11 ans, avec des dents proéminentes devant, si on lui disait « t'as pas d'amis », et que ça n'arrêtait pas, c'était toute la journée, qu'elle commençait à cesser de lever le doigt, d'intervenir en classe, elle se faisait tout de suite, elle disparaissait littéralement, elle avait compris que tout ça était quand même un petit peu compliqué. Oui, c'est-à-dire que finalement, ils encaissent, et ils se rendent pas compte. Ils se disent, mais c'est la vie, quoi. C'est comme un môme qui a pas assez à manger, il doit penser que c'est la vie. Sans faire des comparaisons stupides et probablement déséquilibrées, mais voilà, elle encaissait et elle pensait que c'était normal. Jusqu'au jour où quelqu'un arrive et lui dit « Attention, c'est pas normal ». Donc elle revient chez sa mère lui dit bah, « tu vas pas y retourner demain ». Elle y va quand même parce que elle veut pas créer d'incident, les enfants ne veulent pas créer d'incident, c'est très complexe, donc elle y retourne le lendemain. Et puis le soir, elle revient, elle a pas dormi de la nuit. Alors que là, sa mère m'a appelé à ce moment-là et elle est jamais retournée dans ce collège, oui.
Ouais, Voilà.
Vous savez, un épisode de harcèlement sur les choses que je vous... Vous m'arrêtez si je suis trop long, mais sur les choses que je vous disais, c'est-à-dire, vous voyez, elle avait deux incisives assez proéminentes, et elle avait participé, elle avait eu un...
Ce qu'on appelle les dents de lapin, nous.
Exactement, et que tous les enfants ont avec les tétines ou le pouce aujourd'hui, beaucoup en tout cas, ce qui fait la fortune des orthodontistes. Et elle avait participé à un petit concours informatique, enfin un énorme concours informatique national qui s'appelle le concours Castor, qui a lieu, je crois, encore chaque année. Elle avait eu un assez bon résultat. Alors là, Castor plus...
Les dents de lapin, c'est mort.
Avant, c'était génial, le territoire était parfait. Donc, ils trouvaient, mais de toute façon, ce que je voulais dire aussi, c'est que je veux pas... on n'a pas porté plainte contre ces enfants, ni quoi que ce soit. Puis je veux surtout pas les accuser, ça arrive, c'est stupide. Je me dis de temps en temps qu'elle aurait... peut-être pu être de l'autre côté, on sait jamais, quoi. Donc, il faut se calmer. Mais qu'il y avait avant quelque chose chez elle de, qui était pas fanatisée par l'école, bien qu'elle ait des très très bonnes notes, elle est facile, vous voyez, mais elle était pas fanatisée. Vous allez me dire quel enfant est fanatisé par l'école? Pas beaucoup, mais elle n'est pas très fanatique du groupe. Donc, il y a un territoire, quand même. Vous voyez, ça n'arrive pas sur elle par hasard.
Mais alors, sur le harcèlement, personne n'avait rien vu et vous non plus, hein.
Ben nous, c'est très compliqué de voir car on n'est pas à l'école et que vous savez que l'accès à l'école est quasiment fermé aux parents quand même à partir de certaines classes. Et elle ne s'était pas confiée. Elle n'arrivait pas avec des bleus. Elle n'était pas harcelée brutalement, physiquement, si vous voulez, pas de violence physique. Donc il était impossible pour nous de savoir. Et il y aurait eu des violences physiques. Comme vous savez, une fille de 11 ans, elle se montre plus toute nue. Donc il y a des tas de choses qui auraient pu tout à fait nous échapper. Mais c'était pas le cas. C'est juste des violences morales. Et non, on voit rien du tout. Je suis tombé de l'arbre, là, vraiment.
Alors, François Cuel, Karima Chadibaou est arrivée. Bonjour, Karima.
Bonjour, Philippe. Bonjour, monsieur.
Voilà, coach familial, parental, formatrice à l'Institut européen d'études et des recherches sur les thérapies holistiques. Karima, quelle est la différence entre un caprice d'enfant et une phobie scolaire?
Alors, il faut distinguer, comme vous le dites, Philippe, donc le caprice, c'est ce qu'on appelle un caprice. Et généralement, il y a souvent un besoin en fait qui est pas comblé derrière, d'accord. La phobie, avant d'arriver à la phobie, il y a déjà de l'anxiété. Ça arrive généralement aux enfants qui sont hyper anxieux ou qui ont ce tempérament un peu d'angoisse.
Donc il y a un terrain. C'est ce que vous voulez dire.
C'est ce qu'il disait aussi. J'entends en arrivant sur le périph' du Coutet. En même temps, donc on peut pas dire parce que maintenant c'est vrai que on met sous le chapeau de phobie tout est un peu n'importe quoi. Hein. Maintenant parce que l'enfant quand il se passe quelque chose à l'école et l'école c'est le terrain où il apprend toutes les relations sociales, toutes les relations, toutes ces compétences en fait psychosociales que l'enfant va développer et la phobie scolaire peut intervenir très tôt, hein, dès la maternelle. Hein. Alors souvent les parents prennent ça comme étant un caprice. Je veux pas aller à l'école, j'ai mal au ventre ou j'ai mal. Alors, c'est pas un caprice. Moi, personnellement, moi je fais partie du courant qui dit un enfant ne fait pas de caprice. Un caprice, c'est quand l'enfant il veut quelque chose, un jouet et il va en fait utiliser tous les moyens, tous les subterfuges pour arriver à ses fins. Là, on parle de quelque chose quand même qui est assez important. C'est pas un enfant quand il dit qu'il veut pas aller à l'école ou qu'il se sent mal à l'école ou qu'il a mal au ventre avant d'aller à l'école ou mal à la gorge ou qu'il a envie de vomir ou qu'il a mal à la tête. Vraiment, c'est des signaux d'alerte en fait qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. François disait tout à l'heure, il parlait de situations de harcèlement et généralement les phobies interviennent quand il y a une situation ou un terrain. Et surtout qu'à cet âge-là, là j'ai entendu que c'était l'âge de 11 ans.
Là François, c'est sur les scolarités de 6e, 5e et 4e pour votre fille, pour Louise.
Absolument, ça a démarré en janvier de l'année de 6e.
Voilà. L'entrée au collège, donc changement. Ouais. On n'est plus avec un seul enseignant. On a plusieurs enseignants. C'est l'âge aussi de la préadolescence ou la puberté. Donc intervient au niveau physiologique, au niveau des pensées et des raisonnements. Ben c'est là où on a envie un peu d'explorer un peu tout. Et donc c'est là où on va essayer de pousser les limites. Vous vous rappelez, quand on a fait l'émission sur mon ado, sur les adolescents, la fiche d'identité de l'ado, on est au cœur d'ici, des changements. Et donc, au cœur des changements, nous, en tant que parents, déjà, on est un peu déboussolés parce qu'on ne reconnaît pas notre enfant, mais l'enfant lui-même ne se reconnaît pas. Donc, il va aussi commencer à tisser des liens, à essayer de se faire aimer de ses amis, de ses camarades, à montrer un autre visage, de construire aussi son identité au niveau psychique. Donc, c'est un peu complexe. Et du fait qu'il se sente rejeté ou qu'il n'arrive pas à appartenir à ce groupe, donc qu'est-ce qui va se passer ? Il peut commencer à somatiser et dire « moi j'arrive pas à trouver ma place, je me sens pas exister » et donc du coup ben, le lieu, l'endroit, de là où ça se passe, ben, c'est l'école, c'est le collège.
Alors François Cuel, vous racontez très bien ce que c'est que la phobie scolaire. C'est une petite fille qui se lève le matin, qui prend les transports en commun, qui arrive devant la grille du collège et qui peut pas rentrer. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est que au moment où vous êtes devant, vous n'y arrivez pas. C'est bien ça que vous racontez, François?
Oui, c'est arrivé à quelques reprises, quelques rares reprises, parce qu'en général, elle ne part pas de chez elle. Elle ne partait plus
oui,
de chez elle.
Sort pas.
Elle a réussi à aller, à faire qu'un cas, une année de sixième dans un autre collège. Mais à partir de la cinquième, ça a commencé à être très catastrophique et chaque départ à l'école était complexe. Mais je rejoins ce que disait Karima, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Appelez-la Karima, François.
Karima. Oui, c'est plus simple. J'ai peur de mal prononcer son nom, sinon. Ce que disait Karima est très juste. Moi, j'essaie de faire une distinction entre caractère de l'enfant et phobie. C'est-à-dire quand est-ce qu'un trait de caractère de l'enfant devient pathologique réellement, c'est-à-dire devient vraiment un empêchement. Parce qu'après tout, franchement, qui peut dire qu'on n'a pas essayé de couper à l'école en feignant un mal de tête, un mal de ventre, on a tous fait ça, quoi. Il ne faut pas exagérer. Mais la question pour les parents, c'est de deviner, effectivement, c'est ce débat que Karima ouvrait, c'est de deviner quand il faut les pousser un peu dehors, parce que, écoute, exagère pas, il faut aller à l'école, et puis quand, en fait, ça dépasse vraiment leur volonté et qu'ils n'y arrivent pas.
Oui, alors, c'est la différence, si vous me permettez, François, je vous interromps, c'est la différence, en fait, entre le fait de pouvoir accueillir ce qui se passe en l'enfant. Je veux dire, quand il s'exprime, il dit qu'il a mal au ventre, ou qu'il a mal à la tête, ou qu'il a des nausées, c'est déjà, il faut que nous, on reste alerte, c'est-à-dire à l'écoute de ce qui se passe, et en même temps, c'est qu'il se passe probablement quelque chose, soit dans la relation avec l'enseignant, avec l'adulte, soit dans la relation avec ses pairs, c'est-à-dire avec les autres, ses camarades. Et donc, il faut qu'on soit à l'écoute de ça, pour pas que ça dégénère et que ça s'amplifie et qu'on se retrouve au niveau comportemental et au niveau émotionnel dans une escalade, en fait, de ce qui peut se passer.
Oui, vous avez raison, mais moi, je pense que parfois, il y a juste un contrôle dans une matière qu'ils n'ont pas révisée, vous voyez, où ça peut être des choses aussi bêtes que ça,
oui.
Ce qui ne veut pas dire de ne pas le savoir ou de ne pas l'entendre. Hein. Mais voilà, c'est
parfois... Mais là, on n'est pas dans la phobie. Là, on ne rentre pas dans la phobie scolaire.
On est dans un fonctionnement extrêmement normal et réjouissant d'un enfant, moi, je trouve.
Et pour être aussi complètement authentique, c'est que notre système scolaire ne facilite pas, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment dans la bienveillance et dans une préparation émotionnelle et psychique aussi pour aider les enfants à passer les évaluations dans une situation, je vais dire ça comme ça, qui soit là où il peut mobiliser en fait toutes ses potentialités. Là, on crée de la peur, de l'angoisse, qui peut après se transformer par de la panique et de la phobie. Hein.
Oui, sûrement le système français qui est punitif, hein, assez systématiquement, mais je vous rassure, ils ne font rien contre la phobie scolaire, ils ne savent pas de quoi il s'agit.
Mais attendez, à leur décharge, François Cuel, très peu de gens savent ce qu'est réellement la phobie scolaire. D'ailleurs, c'est même pas une maladie reconnue aujourd'hui.
Non, c'est pas une maladie reconnue. Je vais donner un exemple avec une situation, une jeune fille que j'accompagne en ce moment. Elle va se reconnaître si elle nous écoute aujourd'hui.
Et parce que comme elle va pas en classe, elle peut nous écouter.
Elle peut nous écouter. Voilà. Et avec sa maman, on a mis en place des choses. C'est pas simple parce que même pour venir jusqu'au cabinet, c'est très compliqué. Et sa maman a eu l'idée de lui donner un chien, de lui offrir en cadeau un chien, en fait, qui est devenu, en fait, un média, on va dire ça comme ça, qui l'aide, en fait, sur lequel elle va transposer, en fait, toute sa peur. Et son chien, qui s'appelle Milka, je peux donner le nom du chien.
Oui.
Milka,
il faut citer trois marques de chocolat, hein.
Non, mais je sais pas, Côte d'Or et je sais pas quoi d'autre.
Et Poulain,
voilà. D'accord. Mais là, s'il s'agit d'un chien, donc pas de chocolat. et faut voir la relation qui a été créée, comment elle, parce que quand cette jeune fille est arrivée dans mon cabinet, donc elle refait sa quatrième, elle a 14 ans, d'accord? Et il y a une, mais quand je vous dis une terreur, une terreur, Philippe. Mmh. Mais une terreur, vous savez, on a des indicateurs physiologiques. La pupille de ses yeux, on ne la voit pas, quoi. Je veux dire, pas la pupille, mais la pupille est dilatée, on ne voit plus l'iris. Ça, c'est des signaux qui on est face à une terreur quand on est à l'extérieur. Et tout ça s'est passé comment ? Il y a eu, bien sûr, un terrain, une situation familiale très compliquée, un divorce des parents.
Ce qui s'est passé chez François Cuel également. Hein.
Voilà. Donc il y a et la jeune fille, c'est sa manière à elle d'appeler au secours. C'est sa manière à elle de résoudre en fait, même si, comme je lui dis, on en rigole, tu t'y prends comme une patate, c'est ce que je lui dis, mais de régler en fait le problème. C'est en quoi le problème, en quoi la solution que j'ai mis en place est la réponse au problème que je suis en train de vivre. Et avec le chien, Milka, excusez-moi Philippe, il se passe en fait qu'elle a commencé à reprendre confiance. Maintenant, bien sûr, on se bat pour qu'elle puisse aller à l'école avec son chien, ça c'est pas gagné.
Ne faites pas de mamounisation. Pas de mamounisation. François Cuel, vous restez avec nous. Vous aussi, vous avez droit au chien. On parle de la phobie scolaire ce matin. Vous êtes bien sûr les bienvenus si vous voulez témoigner. Si peut-être vous avez des enfants qui ont été diagnostiqués phobiques à l'école. 01 53 48 3000, puisque bien sûr votre témoignage nous intéresse. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, nous parlons de la phobie scolaire. On va essayer de définir précisément ce qu'est cette phobie scolaire ce matin avec Karima Chadibaou qui est avec nous. Et puis François Cuel, vous racontez l'histoire de votre fille. Alors évidemment, le titre c'était vraiment nul et vieux, mais le sous-titre traduit bien ce qu'il y a dans votre livre. Lettre à ma fille qui ne va plus à l'école et c'est chez Harper Collins. À quel moment est-ce qu'on a posé le diagnostic de phobie scolaire chez votre fille François Cuel?
En fait, on a été voir évidemment des gens pour l'aider, comme on dit. D'ailleurs, elle en avait consulté enfant au fil de problèmes mineurs, comme ça, que les psys avaient assez bien réglés. Mais là, ça a été très compliqué. Et fondamentalement, on a mis énormément de temps, sa mère et moi, qui nous entendons bien, on est certes divorcés, mais on s'entend très bien, on a mis énormément de temps à nous rendre compte que ça servait à rien de
la maintenir à l'école.
Oui, c'était chaque matin un problème, c'était chaque matin une crise, c'était chaque matin une difficulté. Et je peux dire qu'on a été vraiment très stupides pendant des mois et des mois. Ça s'est arrêté à un moment où la pédopsie de Louise, qui est vraiment un peu la tour de contrôle de Louise, nous a dit, à l'occasion d'un événement qui s'est produit, qui est que Louise a refusé d'aller voir cette pédopsie, un rendez-vous qu'on a presque tous les mois, grosso modo, elle nous a dit, il faut maintenant arrêter de lui demander d'aller à l'école. Arrêter. Donc on a cessé de lui demander d'aller à l'école. Il fallait que quelqu'un nous le dise. C'est compliqué de pas aller à l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, vous avez l'État sur le dos. L'État ne veut pas que l'enfant n'aille pas à l'école. L'État vous envoie des lettres, l'État vous demande des comptes. Mmh. Vous disiez l'autre jour, tout à l'heure, que Karima disait, je crois, et vous-même, que la phobie n'était pas reconnue, comme elle dit. Mais en même temps, oui et non, puisque il suffit qu'il y ait une lettre d'un pédopsie qui emploie peut-être pas ce mot-là, mais toute sa lettre veut absolument dire ça, pour que l'État accepte, que l'Éducation nationale en l'occurrence, accepte que Louise ne se rende pas en cours, ou, puisqu'elle est au CNED en ce moment, c'est-à-dire au Centre national d'éducation et d'enseignement.
Par correspondance, donc.
Par correspondance, mais elle n'arrive plus à faire ses devoirs maintenant.
Bon.
C'est là où ça prend, si vous voulez, des dimensions très étonnantes, parce qu'on pourrait croire que le refus scolaire, c'est le refus du bahut, de la foule, des profs, du cours, mais pas du tout. C'est encore autre chose, parce que elle y aspire, elle adorerait aller à l'école. Elle adorerait y aller. Elle n'y parvient pas, mais elle aimerait beaucoup y aller.
Voilà. Ce qu'il faut expliquer, c'est que la phobie scolaire, c'est pas une pathologie qui touche les gens qui n'aiment pas l'école, hein, ou de ceux qui travaillent mal, mais c'est de ceux qui ont une peur panique que d'y aller.
C'est très juste. Ça ne touche pas des gens qui n'aiment pas aller à l'école. C'est une phrase très simple et très juste. Absolument. Elle adorerait aller à l'école. Là. Ses copains préparent le brevet. Elle probablement ne le passera pas. Et je sais qu'à chaque fois, ça la déprime beaucoup. Voilà. Donc c'est un truc très curieux, mais elle est comme toutes les maladies psychiques des autres. Elle est incompréhensible quand on ne la vit pas de l'intérieur. Elle est très compliquée à lire. On a mis beaucoup de temps.
Imposez-vous, Karima, parce que François, il parle beaucoup. François, il faut y aller. Hein.
La phobie scolaire fait partie des phobies sociales. Les enfants, ils ont peur des araignées, ils ont peur de tout ce qui est différent, ils ont peur, comme tous les êtres humains. La phobie, c'est une phobie sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il se trouve dans des situations, en fait, dans lesquelles il doit déjà s'affirmer, dans lesquelles il doit s'exprimer, dans lesquelles il doit montrer, en fait, qui il est. D'accord? Et donc, on parle de phobie scolaire parce que ça se passe à l'école. C'est à l'école où il développe toutes ses compétences psychosociales. Et à la maison, bien sûr. Et quand il y a des difficultés à la maison, que ce soit une situation de divorce, une situation, une perte, un deuil, l'enfant va, en fait, c'est sa manière à lui, en fait, d'exprimer sa non-compréhension de la situation ou sa non-acceptation de la situation.
Alors ça, on reviendra là-dessus, justement, bah, par rapport à l'histoire de François. Et Myriam est au standard, elle voudrait témoigner, hein, au 01 53 48 3000. Myriam, bienvenue.
Bonjour. Merci, Myriam. Bonjour. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Donc moi j'ai plutôt une question, en fait, parce que j'ai mon fils qui a 5 ans et demi.
Oui.
Et que il adore aller à l'école, tout va très bien. Et le centre aussi. Par contre, quand il y a les vacances comme là par exemple la semaine prochaine, ben il veut plus y aller. Par exemple, il y a 2-3 jours, donc il pleurait au moment de coucher. Il me dit maman, j'ai pas envie d'aller au centre. Alors moi ça m'étonne parce que tout le temps il veut y aller au centre. Au contraire, il est content. Je lui dis alors pourquoi? Il me dit parce qu'en fait, pendant les vacances, il y a un autre centre d'une autre école qui vient s'ajouter à eux. Donc il me dit parce que les enfants de l'autre centre, ils me frappent. Les grands, il me dit. Je lui dis écoute, en fait, la vérité, je ne savais pas trop quoi dire parce que la première fois, en fait, qu'on avance ce sujet, pour moi, il est encore petit, il n'est pas dans ça. Et là, il me dit, je lui dis, écoute, maman, ne te laisse pas faire. Et moi, je suis plutôt dans l'optique, écoute, si on te frappe, si on t'embête, va voir les grands, que ce soit la maîtresse, ou le maître, ou l'animatrice. Et son papa, donc, lui dit, écoute, c'est simple, on te frappe, tu frappes. Donc, voilà. Donc, il lui a dit, par contre, toi, tu commences pas, on te frappe, tu dis arrête une fois. Il n'arrête pas, tu frappes. Et là, il dit, on va me punir, mais je ne peux pas être puni.
Oui. Il est un petit peu dans une double contrainte, là, votre petit garçon.
Alors, dans le sud, nous, on dit front dégagé, tête baissée. Donc,
voilà, oui. Parce que c'est vrai que moi, je suis tout le temps, non, il ne faut pas frapper. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a un désaccord, tu vas voir un grand. Et son père, il m'a dit, s'il n'arrive pas, c'est pas grave. Il frappe. Enfin, il a pris ça pour lui que c'est pas grave. Donc, moi, je ne suis pas très d'accord. Donc, du coup, déjà, il nous a vus, nous deux, on n'est pas en accord.
Oui.
Donc,
c'est sûr que ça aide pas, Myriam, ça. Hein.
Voilà, oui. Donc, il m'a dit, maman, je fais quoi? Je lui dis, écoute, c'est simple. Tu dis une fois, arrête. Tu reparles encore avec lui. Si ça va pas, tu parles avec les animateurs. Ou sinon, tu me le dis. Et moi, je parlerai avec la directrice du centre ou bien les animateurs. Donc, je vous cache pas que je sais pas trop quoi faire. Les vacances.
Bon, Karima, comment est-ce qu'on démêle ça?
Alors, ce qu'on peut faire, Myriam, avec votre fils, oui. Donc il a 5 ans et demi. D'accord? Donc là, vous allez lui apprendre, en fait, à lui faire confiance. Déjà, oui. Ça c'est la première des choses, parce que si c'est vous qui venez, qui le défendez à chaque fois, ça en tant que parents, nous on adore faire ça. Hein. On adore faire ça, ouais. Parce que on veut défendre notre enfant, il est le pauvre. Et donc du coup, on lui envoie comme message, tu n'es pas capable de te défendre seul, tu as besoin de moi. Même si bien sûr c'est vrai, il a besoin de nous, d'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est déjà lui expliquer que personne n'a le droit de le frapper, de porter préjudice sur son intégrité physique ou même psychologique. Alors vous n'allez pas lui dire comme ça, bien sûr, hein. Vous allez simplement lui dire, voilà. Écoute, personne n'a le droit de te frapper. Tu as déjà informé les adultes autour de toi, c'est très bien. Maintenant, tu peux aussi discuter avec cet enfant. Et à 5 ans et demi, ils sont capables de le faire, de dire, voilà, écoute, moi, quand tu me frappes ou que tu me tapes, j'aime pas ça. Est-ce que toi, tu aimes que quelqu'un te vienne te frapper? Je préfère que tu me dises les choses avec des mots ou qu'on en discute, tout simplement. Et à 5 ans et demi, alors des fois, des parents me regardent avec des yeux ronds en me disant, mais à 5 ans et demi, vous pensez qu'il...
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Ben non, à 5 ans et demi, ils sont capables déjà d'avoir un raisonnement et de se dire, est-ce que c'est cette relation que tu veux avec tes camarades? Parce que sinon, vous allez le positionner en tant que victime et il s'en sortira jamais. Bon, j'exagère un peu, mais dans le sens où vous allez lui dire, nous, on est là, quoi que tu aies besoin de faire, et vous allez lui apprendre, en fait, vous allez l'entraîner, lui apprendre à se défendre. Vous allez lui, comme un vaccin, en fait, lui dire, ben, quand quelqu'un te parle de telle ou telle manière, alors moi, je suis quelqu'un de non-violent, hein, je suis contre la violence, quelle qu'elle soit, d'accord ?
Oui,
c'est-à-dire
ça,
que vous allez mettre, comme faire un petit jeu de rôle avec lui, et les enfants à cet âge-là adorent ça, un petit jeu de rôle où lui va être un petit peu, soit, vous le mettez dans les deux rôles, dans le rôle de l'agresseur, et dans le rôle de la victime. Et ensuite, vous lui demandez, ben, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es agresseur et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es victime.
Justement, excuse-moi, je vais vous couper parce que c'est arrivé il y a quelques jours.
Oui.
Il est passé de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire, maintenant, il est tout le temps avec un petit garçon qui a le même âge que lui, mais qui est plus grand physiquement. Et il fait un petit garçon de 7 ans, 8 ans, alors qu'il a que 5 ans aussi.
Oui.
Et donc, même la maîtresse, elle a remarqué qu'il est tout le temps maintenant avec lui, donc je pense qu'ils se sont un peu protégés par lui.
Oui.
Et on m'a dit qu'il s'est acharné avec ce petit sur son propre copain, c'est-à-dire mon fils, sur son copain, qui était par terre et que lui ont donné des coups au niveau du ventre.
Ah oui, oui, d'accord.
Alors là, je lui dis, mais est-ce que tu veux qu'on te fasse ça?
Oui.
Regarde, je lui dis, Paul, j'ai prononcé le prénom.
C'est pas grave.
C'est ton copain. Et est-ce que toi, tu voudrais qu'on te fasse ça, que tu sois accroupi par terre et qu'on te donne des coups? Il m'a dit non. Et donc, rien que comment je lui parlais, c'était normal. Hein, j'étais pas agressif ni quoi que ce soit, mais je pense que ça l'a touché, qu'il a commencé à pleurer et il m'a demandé pardon.
Voilà. Et ce serait bien pour continuer qu'il demande aussi pardon à la personne qu'il a blessé.
Par contre, si tu veux que maman te pardonne, il faut que tu demandes pardon à ton copain. Il m'a dit, c'est déjà fait. Je lui ai dit, mais j'aimerais bien que tu le fasses à lui et à ses parents aussi, parce que des gens, on va chez eux, ils viennent chez nous. Donc même eux, les parents, j'étais étonnée. Ils n'ont pas compris comment ça se fait qu'il a fait ça.
Oui.
Et donc voilà. Donc je vois que là, il est plus dans l'optique de chercher des plus grands que lui, des plus imposant que lui, peut-être pour qu'il se sente en sécurité. Et moi, je ne veux pas qu'il rentre dans ce système-là dès cet âge-là, quoi.
Oui, mais de toute façon, Myriam, c'est un passage qui est obligé. D'accord. Là, ce que je suis en train de dire, pour le normaliser, ça ne veut pas dire qu'on va le laisser se faire comme ça, d'accord. Mais simplement dire, il est passé de l'autre côté. Ben, c'est sûr qu'il se sent un peu plus dans sa puissance quand il n'est pas lui-même la victime et qu'il est plutôt l'agresseur. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est simple. Là, vous êtes, et en plus à 5 ans et demi, c'est génial ce qui se passe, parce que là, il est en train d'apprendre, en fait, vous êtes en train de lui transmettre des valeurs qui sont fondamentales. C'est la valeur notamment de justice, la valeur aussi de protection. D'accord.
Enfin moi, Myriam, moi ce que j'entends, c'est que tous ces enfants, ça fera de très très bons rugbymen, hein. Franchement. Là, je crois qu'ils ont beaucoup d'énergie. On va les envoyer au rugby. On va les envoyer courir sur un terrain. Je crois que ça va leur faire un bien fou.
Et ce qui est très bien, Myriam, rester dans la pédagogie, dans la transmission, c'est très bien de mettre des mots à chaque fois sur les choses qui se passent.
On vous fait un gros bisou, Myriam.
Merci, c'est très gentil à vous.
Et à votre petit bonhomme. Alors vous restez en ligne, Paul, vous restez en ligne. Si vous voulez nous parler de la phobie scolaire, vous êtes les bienvenus ce matin, 01 53 48 3000. Si vous avez un enfant qui refuse d'aller à l'école, venez témoigner, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Putain, qu'elle fasse ça au moins 15.
Voilà, on parle de la phobie scolaire aujourd'hui avec Karima Chadi-Baou qui est avec nous, et puis François Cuel qui raconte l'histoire de sa fille Louise qui a décidé un jour de ne plus aller à l'école. Le livre s'appelle « T'es vraiment nul et vieux, lettre à ma fille qui ne va plus à l'école » chez HarperCollins. François Cuel, en fait, votre fille vous a quand même beaucoup reproché votre divorce.
Oui, je crois que je pense pas que les enfants aiment beaucoup ça. Je pense qu'on a essayé de déculpabiliser les parents comme beaucoup de gens divorcent aujourd'hui. Il fallait bien faire quelque chose pour eux aussi. Mais bon, il faut arrêter de se voiler la face. C'est jamais une bonne nouvelle. Voilà, sauf si les parents, sauf si la relation est épouvantable. Et effectivement, c'est d'ailleurs en général ce qu'on dit. Il vaut mieux qu'on sépare plutôt qu'on montre à l'enfant une relation.
Ouais, pareille. Là, votre fille, elle vous dit, tu ne vas encore pas changer de femme, papa.
Oui, alors ça, c'était après, parce que elle surestimait, en fait, largement mes capacités de conquête, je pense, et donc elle avait le sentiment que ça défilait, ce qui était d'ailleurs assez faux. Mais vous avez raison, peut-être que c'était là une allusion à sa mère. J'avais divorcé avant, puisque, comme vous le soulignez, j'ai eu Louise à 49 ans, j'ai eu un autre enfant à 33 ans, j'allais dire à un âge plus classique, avec une autre femme. Donc elle a l'image d'un père qui, non pas qu'il saute de femme en femme, c'est pas du tout mon cas, mais qui a eu plusieurs vies. Donc oui, elle m'a dit ça, puis je pense qu'elle s'entendait avec la femme avec qui j'étais à l'époque. Donc elle regrettait aussi que cette femme disparaisse, si j'ose dire, de notre vie.
Alors, votre fille a un jour décidé de ne plus aller à l'école. Pourtant, expliquez-vous, elle avait honte de ne pas aller à l'école.
Oui, d'ailleurs, j'ai découvert assez tard, puisque donc l'épisode de harcèlement, c'est le début de la sixième, la phobie scolaire s'est installée en cinquième, je n'ai découvert qu'en quatrième qu'aucune de ses amies, qui était très proche, parce qu'elle a des amis très proches, n'était au courant de ça. Elle tournait autour du pot, elle donnait des explications, elle était prête même à s'inventer, j'ai l'impression, je suis pas sûr de ce que je raconte, mais elle aurait été prête à s'inventer une maladie physiologique, physique, réelle, pour justifier ses absences. Oui, ça concourt au silence, c'est-à-dire qu'elles ne disent rien. Ils ne disent rien quand ce sont des garçons. Ils ne disent rien. C'est là où c'est très, très, très compliqué d'en sortir. Myriam, qui est intervenue avant la coupure pub, elle n'a pas un problème de phobie. Elle a un petit garçon que des grands embêtent non pas à l'école, mais au centre aéré, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui.
Oui, au centre de loisirs.
Donc c'est autre chose, c'est pas du tout phobique, tant mieux pour elle, c'est pas drôle du tout cet épisode pour le môme, il y a 5 ans et demi, c'est quand même pénible, mais ça va se régler. La phobie, il n'y a pas d'origine avérée, c'est une drôle de, un drôle de mélange. Je sais pas si Karima sera d'accord avec moi, mais on va chercher quand on est en face d'enfants comme ça, c'est le cas de ma fille et c'est son cas à elle comme thérapeute par rapport à des enfants phobiques, arriver à dénouer les fils, c'est très complexe. D'où ça vient? Comment ça s'est installé? Comment on va en sortir? Ah, franchement, moi, je suis encore dans le noir total aujourd'hui.
Alors, pour répondre, François, c'est que, en fait, comme vous l'avez dit, les causes, les origines, elles sont pas bien connues. Parce que c'est nouveau en même temps, même probablement que ça existait déjà avant. Mais là, maintenant, parce qu'aussi, il y a notre société qui crée ça. D'accord? Donc, il y a des causes biologiques. Pourquoi? Parce que c'est au moment de la soit préadolescence, adolescence, ça se développe donc au niveau des hormones. Il se passe des choses, il y a un changement au niveau de la chimie du cerveau, il y a ça. Il y a les troubles aussi au niveau psychologique, donc où mon identité est en train de se développer, c'est un processus, qui je suis, qui je veux être dans cette société, quelle est ma place, quelle est ma valeur, il y a ces questions-là qui se posent. Et au niveau social, donc ça va ensemble, c'est-à-dire que la question de place, la question aussi de l'appartenance. Et notamment, donc là, dans ce que dit François, c'est il y a une situation de séparation. Et souvent, l'enfant ne veut pas aller à l'école. Pourquoi ? L'école, c'est l'endroit où il passe la majeure partie de son temps. Il passe entre 6h, 7h par jour. C'est l'endroit de la manifestation, c'est-à-dire là où je vais manifester mon mécontentement d'une situation familiale compliquée ou pas, d'accord ? Ou de comme on l'a dit tout à l'heure, d'un besoin. Donc ici, on a dans le cas de Louise, si j'ai bien compris un petit peu, hein, c'est que il y a le changement au niveau familial, il y a un deuil à faire d'une situation familiale, donc un sentiment de perte. Et comment en fait je peux exprimer ce sentiment de perte? Le premier objet, c'est le papa. Donc elle va quand elle dit t'es trop vieux, tu comprends pas, t'es trop vieux et nul, voilà.
Elle le dit pas. Hein, elle le pense, mais elle le dit pas.
Voilà, c'est François qui le dit. Et on sait ce que pensent parfois de nous nos enfants, ce qu'ils disent. Mais si je vous disais ce que disaient les miens, mes ados aussi, hein, voilà. Donc il y a toute cette ambivalence. Ce que vous disiez tout à l'heure, je veux aller à l'école. Pourquoi? Parce que je veux être comme mes camarades, je veux être comme tout le monde. Je veux pouvoir m'épanouir, avoir des copains, sortir, faire des choses. Et en même temps, il y a cette ambivalence où j'ai peur d'y aller.
Alors François, votre fille avait réussi à localiser sur WhatsApp toute une série de gamines qui étaient elles aussi déscolarisées.
Alors elle dit que non. Dans le dernier chapitre où justement elle me parle des nombreuses erreurs.
Des corrections, elle vous dit que. Mais,
oui,
mais,
voilà.
Mais elle parlait avec elle quand même.
Comment? Oui, elle parlait avec des gamines. J'allais dire, je pense qu'elles n'étaient pas forcément toutes déscolarisées. J'ai envie de dire, elles étaient toutes un peu spéciales. Maintenant, est-ce que tous les enfants de 13 ans ne sont pas un peu spéciaux, je me demande? Et un peu particuliers, voilà. Mais elles étaient spéciales parce qu'avec des situations un peu complexes et tout. Donc je pense qu'en fait, ces réseaux étaient assez utiles parce que c'était un exercice intellectuel. Elles échangeaient des expériences, elles se racontaient des choses. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas du tout freiné là-dessus. Je le contrôlais parce qu'on a toujours peur de qu'il y ait un dingue qui se glisse là-dedans. Mais il y en avait pas du tout. Et c'était des enfants dont les parents étaient séparés. C'est pas des enfants dont les parents s'étaient séparés dans une forme de violence. Ou des choses aussi, j'allais dire, banales que ça, malheureusement. Donc voilà, elle a appris à penser, en fait. Elle a appris à penser la diversité des difficultés de sa génération.
Et ça, voilà. D'ailleurs, François, c'est une des pistes, nous, qu'on utilise en tant que thérapeute, c'est de qu'elle puisse se retrouver, puisse s'identifier aussi à d'autres personnes qui vivent la même difficulté qu'elle. Et du coup, ça aide à prendre un peu de la distance. Moi, j'ai accompagné plusieurs filles, et surtout des filles. Hein. Je me souviens d'une autre jeune fille que j'accompagnais qui arrivait devant la grille, tétanisée. Mais vraiment tétanisée, qui ne peut pas rentrer. Ou alors, quand elle rentre, elle s'enferme dans les toilettes. Et donc, et c'est arrivé au point où elle n'arrivait plus à se déplacer et à venir jusqu'au cabinet. Donc, du coup, on avait mis en place des séances par Skype où on pouvait justement se voir. Et Dieu merci, maintenant, elle va bien. Elle a repris le chemin de l'école. Elle a eu son bac. Elle est en école maintenant. Elle fait en école supérieure. Donc, voilà, c'est vrai que c'est difficile. Puis, on a l'impression, en tant que parent, que l'enfant va rester toute sa vie comme ça. Et c'est ça qui est difficile.
Alors on va accueillir Khadija qui est avec nous. Khadija au 01 53 48 3000. Khadija, bienvenue.
Oui, bonjour.
Appelez-moi Philippe.
Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors moi, le problème, c'est que j'ai ma fille, donc elle a maintenant 37 ans.
Oui, elle va plus à l'école.
Petite, ouais. Elle voulait pas aller à l'école dès le début parce qu'elle se faisait harceler par ses copines. Et elle était très bonne élève. Et puis, un moment après, elle voulait plus aller à l'école. Et je me demandais pourquoi. Et elle me disait absolument rien parce qu'elle avait peur de ses copines. Mais un moment, on recevait des coups de fil à la maison. Ses petites filles, donc, elles étaient petites, elles avaient 7-8 ans. Elle téléphonait à la maison pour embêter ma fille. Parce qu'elle était... Elle était excellente à l'école. Mmh. Elle était travailleuse, elle arrivait à la maison, elle fait ses devoirs, elle révise, elle lit beaucoup. D'ailleurs, même en grandissant, elle a lu tous les livres que son professeur de français lui prêtait. Quand elle est arrivée au bac, c'était vraiment... Elle voulait pas passer le bac. Voilà. Le lendemain, on s'est préparé pour partir. Elle me dit, maman, j'y vais pas. Elle a fait une crise, elle pleurait et tout. Elle n'a pas été, elle a été hospitalisée. J'ai appelé le médecin.
Ouais.
On l'a hospitalisée.
Elle a fait une crise de panique, c'est ça?
Elle a passé son bac en septembre.
D'accord.
Et elle a eu, avec mention, félicitations du jury. Donc, elle n'avait pas de problème de ce côté-là. Elle travaillait très, très bien. Et puis, après, donc, elle devait rentrer en première année de médecine. Ça a fait la même chose. Elle ne voulait pas y aller parce que les copains... puis vu qu'elle travaillait très, très bien, les copains l'harcelaient aussi de cette façon. Elle ne voulait pas y aller. Elle n'a pas raté son année. Elle a eu une très, très bonne note. Mais par contre, moi, je lui ai dit qu'il faut changer de section. Elle a fait du droit après. Elle a fait du droit et à ce moment-là, elle a eu des bons copains, des gens respectueux. À ce moment-là, ça s'est arrangé.
Ce qui veut dire Khadija, c'est que quand même cette forme de phobie l'a accompagnée de ses 7 ans jusqu'à ses 20 et quelques années.
Jusqu'aux études supérieures et tout. Et puis après, quand elle a changé, parce qu'on l'a harcelé tellement, on lui crie dessus, parce qu'elle était jeune aussi. quand elle est rentrée en médecine, elle avait 16 ans et demi.
Oui, donc on a affaire à une enfant qui était précoce au niveau intellectuel aussi.
Et après, on lui a changé de section. Elle est allée en...
Oui.
Donc, elle a fait du droit et elle a fait du notarial. Donc, aujourd'hui, elle est notaire. Elle s'est installée.
Bon. Super, très bien.
C'est super. Voilà. Mais alors, on retrouve quelque chose qui est commun à ces enfants. Et vous, François, vous avez testé Louise, votre fille. Ce sont souvent des enfants, ce qu'on appelait avant des hauts potentiels, oui. Des enfants surdoués. Hein.
Oui, quand j'ai écouté Rabidja, là, j'ai tout de suite pensé à ça. Oui, ouais, manifestement, ouais. Sa fille a une forme de précocité. Et souvent, c'est pas systématique, hein, mais c'est vrai que c'est souvent associé à une forme de précocité. Alors, est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est une hypersensibilité? Les enfants précoces ont une forme d'hypersensibilité.
Absolument.
C'est aussi lié à l'ennui à l'école. Les enfants précoces s'ennuient un peu à l'école parce qu'en général, ils ont compris. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi on répète, vous voyez, des choses de ce genre. Donc effectivement, là, le témoignage de Ravidjan est amusant, mais amusant, si j'ose dire, c'est fini. Donc, on peut dire qu'il est amusant aujourd'hui puisque c'est derrière.
Oui, voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'elle s'en est sortie et que ça va maintenant.
Ce qui est très étonnant dans ce qu'elle racontait, et je crois que c'est le mot carrément employé dans le témoignage, c'est plus des crises de panique ponctuelles, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. C'était pas une phobie qui s'est installée et qui avait un caractère permanent, c'était à des apogées de ses études, c'est le bac, la rentrée en première année de médecine, etc. Vraiment une énorme difficulté ponctuelle d'aller à l'école.
Alors François, on va accueillir Nadia qui attend au standard et qui voudrait témoigner. Merci Radija pour votre témoignage. Nadia, bienvenue.
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour Nadia.
Donc moi je voulais donner mon témoignage, c'est par rapport à mon fils. Je rejoins le monsieur François. C'est moi c'est une phobie scolaire qui a commencé en quatrième.
Oui.
Donc qui a duré pendant 2 ans. Donc il est rentré au lycée, ça a été une vraie catastrophe. Il a pas du tout été à l'école. Il arrive devant la grille, il est bloqué le gamin.
Donc, vous avez encore beaucoup d'émotions, hein, Nadia, pour en parler. Hein. Il y a beaucoup de...
C'est chargé.
Oui, parce que je suis dans une impasse, je ne comprends pas.
Là, il y a le changement. Donc, il est arrivé au lycée.
Et là, il est arrivé en seconde,
et qu'est-ce qui s'est passé après, Nadia?
Il est arrivé en seconde, donc il m'a fait... il a les blanches, parce qu'il arrive devant le lycée, il ne rentre pas.
Ah, ouais.
Donc, il n'a pratiquement pas du tout été. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai essayé de voir un pédopsychiatre. On a réussi à le faire hospitaliser dans une antenne spécialisée pour les adolescents.
D'accord. Il est encore là-bas, c'est ça? Il y est?
Non, il a été hospitalisé pendant un mois.
D'accord.
Donc il a fait des rencontres diverses avec des gens avec des problèmes divers. Et il a été diagnostiqué, entre guillemets, enfant précoce. Avec 160 de QI.
D'accord, donc HPI, ok.
Donc, je comprends plus rien parce que je me dis quand on est précoce, quand on fait. Ça m'avance pas, quoi. On diagnostique des choses, mais j'ai pas de réponse.
Oui.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites, Nadia, parce que la précocité. C'est pas forcément ni un signe de maturité,
au contraire, ni
de réussite à l'école, vous voyez, classique.
Juste pour vous donner un petit peu de sens, je sais pas si les médecins et les neuropsychologues et psychiatres qui sont autour de lui vous ont expliqué tout ça, c'est que quand on a affaire à un HPI, donc à un haut potentiel intellectuel, avec une précocité, ce qu'on teste, c'est quoi? C'est au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau de sa capacité de réflexion, au niveau de sa vitesse de réflexion, au niveau des possibilités qu'il a comment est-ce qu'il fait les associations de choses. Maintenant, ce qu'on ne mesure pas, et c'est ça qui est malheureux, c'est au niveau émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre fils, il est aussi bien un haut potentiel intellectuel au niveau cognitif, mais aussi au niveau émotionnel. Ça veut dire qu'il ne sait pas conjuguer ou associer les deux, c'est-à-dire dans la tête, ça va très vite, et l'expression des émotions dans le corps, il ne sait pas gérer. Ça veut dire que le flux émotionnel par quoi il est traversé, il n'y arrive pas. Donc du coup, il y a une espèce de court-circuit qui se crée au niveau de sa tête. Face à une situation donnée, il y a une hypersensibilité parce qu'il capte énormément de choses. C'est des éponges, ces enfants.
Oui,
d'accord.
Oui, oui.
Il capte énormément. Et il ne sait pas traiter ces informations. C'est pas qu'il ne sait pas, il a une manière de les traiter. Et nous, en tant que professionnels et adultes parents, nous devons, en fait, il est là notre travail, c'est de l'aider à pouvoir canaliser cette énergie et de pouvoir la transformer et l'utiliser. Et c'est ça.
De voir un pédopsychiatre ou un psychiatre, entre guillemets, une fois tous les 15 jours, je veux dire qu'il le voit, Et puis au bout de 15 jours, l'enfant, il va aussi mal.
Oui, alors dans ce cas-là, moi, c'est mon conseil que je vais vous donner.
Écoutez, Nadia, ce que vous dit
vraiment,
Karima.
Orientez-vous vers les thérapies brèves, comportementales et cognitives. Moi, j'ai accompagné des enfants hyperactifs, des enfants avec des troubles, donc on appelle les TDAH, des enfants avec des phobies scolaires, et je les ai accompagnés à travers les thérapies comportementales et cognitives. Et j'ai l'hôpital Robert Debré qui m'a appelé parce qu'ils ont vu des résultats significatifs chez les enfants. D'accord ? Et qui me disent, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, vous voyez, orientez-vous plutôt vers là. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage et vous allez y arriver. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, vous allez y arriver.
Et Nadia, cette conversation peut se poursuivre avec Kaina après l'émission. François Cuel, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, vraiment, « T'es vraiment nul et vieux, lettre à ma fille qui ne va plus à l'école » chez HarperCollins. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, Karima.
Merci à vous. Merci, merci François. À bientôt.
Et à très bientôt. Demain, c'est le docteur Alain Delabeau qui est là avec nous. Hein.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.